destiné au football amateur au Maroc. Il est 11h03, nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec une première escale. Habituellement, c'est Boyko au Bénin où on retrouve Élisée Onkpatine. Et ben, on va respecter, on ne va pas déroger à la tradition. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amine Birouk et bienvenue au Bénin.
Alors on va commencer déjà par faire une petite rétro. Bilan des deux clubs béninois engagés en compétition continentale le week-end dernier. La logique a été respectée, Knap Sport a été éliminé par Orlando Pirates. En revanche, il y aura un représentant du football béninois en Coupe de la CAF au deuxième tour préliminaire, mais il retrouvera un as et un os au deuxième tour préliminaire, à savoir la Renaissance Sportive de Berkane.
Le club marocain qu'on connaît bien sûr dans cette compétition, puisque par le passé on a vu ses exploits, notamment des finales enchaînées, et il a été aussi vainqueur de cette compétition, et Dadje FC d'après aura vraiment de l'os dans la gorge, hein, comme vous l'avez dit, puisque c'est l'un des favoris, même si on n'est pas encore arrivé à l'étape des matchs de poule, c'est quand même sur papier l'un des favoris, hein, de cette compétition. On l'a vu, que la Renaissance de Berkane qui quand même a pris cette compétition à bras le cœur. Dadje qui, contre toute attente, hein, a éliminé les Nigérians de Warriors El Kanemi. Vous imaginez, un club nigérian qui quand même a un habitué de la compétition, et que Dadje qui a sa toute première participation à une Coupe d'Afrique des clubs et qui passe le premier tour, contrairement à l'autre grand club béninois qui a remporté 3 fois de suite le titre de champion du Bénin, Coton FC de Ouidah. Dadje FC d'Aplaoué qui fait frontière avec le Togo, et bien qui a fini deuxième du dernier championnat et allé chercher le nul 1-1 du côté du Nigeria, et puis après venu s'imposer à domicile au stade de l'Amitié de Cotonou 2-1. Ça a été très difficile, et les Béninois ont ouvert le score avant d'être rejoint, puis après, eh bien, le but de la libération est intervenu à quelques minutes de la fin de la rencontre. Vous imaginez cette grande fête qu'il y a eu au stade de l'Amitié, puisque le stade était plein. On ne pouvait pas même dire que c'était la première participation à une Coupe d'Afrique des clubs, hein, de ce club de l'Ouest du Bénin, puisque ses supporters ont effectué massivement le déplacement. Le stade était plein et était acquis à sa cause, donc, et une qualification méritée, puisqu'on voit le jeu dans l'ensemble, c'était largement mérité. Le tout nouveau coach, hein, de cette formation, l'Ivoirien Yaya Koné, a apporté sa touche, puisque c'était d'abord un Français, Vincent Ratouro, qui a pris qui a bâti cet effectif-là. Puis après, il est parti rejoindre un club de son pays, le club de la deuxième division de son pays, et a laissé le club à son adjoint, Patrick Agbeyinou, qui est de la région ouest du pays, et qui a amené qui a fait qualifier le club pour cette Coupe de la CAF. Après, l'Ivoirien est venu à quelques 2 semaines de ce premier match-là. L'Ivoirien a fait un travail remarquable avec un effectif très diminué, vous imaginez, puisque c'est seulement 13 joueurs qui se sont inscrits, qui se sont fait inscrire, hein, pour cette compétition continentale des clubs. Donc avec 13 joueurs, il est allé chercher le nul 1-1 du côté du Nigeria, puis est venu s'imposer à domicile. La grosse déception, c'est une grosse déception, vous imaginez, puisque non seulement Coton FC de Ouidah est le plus grand club aujourd'hui du Bénin, mais c'est un club qui a tellement de moyens, un club qu'on peut même comparer en termes de moyens au grand du continent, puisque c'est le club qui appartient au fils du président de la République. Donc toutes les sociétés que gère le président de la République, Patrice Talon, mettent énormément de moyens dans cette équipe, et où il y a des Sénégalais. D'ailleurs, le gardien de but est un expérimenté. Et on le connaît très bien, Adam Cissé, qu'on connaît très bien. Donc, il a presque tous les meilleurs joueurs du pays et aussi de la Souris. Donc, vous imaginez, c'est une grosse déception. Les moyens ont été mis. Le club est allé faire au moins 2 semaines du côté de la Côte d'Ivoire pour se préparer et a même discuté des matchs amicaux contre l'ASEC d'Abidjan. L'ASEC qu'il a précédemment éliminé 2 fois, puisque lors de ces 2 premières participations, eh bien, à chaque fois, Coton a affronté l'ASEC d'Abidjan, et ces 2 fois, l'ASEC l'a éliminé. Donc, on pensait que le club a mûri en expérience et pourra passer enfin cette première étape, puisque en face, ce sont les Burkinabés de l'AS Douane qui quand même étaient aussi ont remporté récemment, j'allais dire, le titre de champion du côté de Burkina Faso. C'est pratiquement le premier titre de ce club-là. En 2 ans, l'AS Douala a remporté et la Coupe du National, puis l'année qui a suivi a été sacré champion avec un entraîneur qu'on connaît très bien, Kamou Malo, qui a amené le Burkina Faso jusqu'en demi-finale de la CAN qui a eu lieu du côté du Cameroun. Donc, voilà, le coton n'a pas pu passer l'époque burkinabé, c'est une grosse déception. Et avant, à la veille même de ce match, le président de la fédération a haussé le ton pour dire si Coton ne passait pas cette étape-là, ce sera quand même la fin de la participation des clubs béninois à Coupe d'Afrique des Nations qui va suspendre la participation des clubs béninois et on ira réfléchir pour réorganiser ce football local afin d'être mieux compétitif puisque cela fait déjà 5 ans qu'aucun club béninois n'a pu se qualifier pour la phase de poule.
Alors on va terminer ce tour d'horizon de l'actualité béninoise avec le preview du match entre le Nigeria et le Bénin, comptant pour les éliminatoires de la CAN. La liste de Guerre Notre Or, ce sera dans une 50aine de secondes, si tu le veux bien mon cher Élisée, après une page de pub.
الجولة الأولى منافسات البطولة الوطنية احترافية في قسمها الأول مباشرة على راديو مارس. حسنية أكادير غادي يستقبل اتحاد طنجة نهار السبت مع 9 ديال الليل بملعب أزرار بأكادير.
هاد الماتش مباشرة على راديو مارس.
هاد الصيف عيش بلادك مع بيتخوم في الربحة اللعبو كاملين والخيمة نشطو مجموعين وفي الجيم على أولادنا هانين أكثر من 20 مدينة و 15,000 جائزة. إيوا أش تتسناو؟ مع بيتخوم كل وقفة تولي ربحة. ما تنساوش تشاركوا معنا في القرعة الكبرى.
Toujours avec vous, Mars Africa, numéro spécial, compétition continentale et liste des sélections nationales pour les prochaines fenêtres FIFA, avec en particulier les éliminatoires de la CAN première et deuxième journée. On était au Bénin, on était chez notre ami Élisée Onkpatine. Élisée, on va avoir certainement de ta part des nouvelles de la liste de Guerre Notre Or en prévision d'un match qui va sentir le soufre aux allures de revanche entre le Nigeria et le Bénin, avec des Super Eagles qui seront certainement revancheurs.
Et bien évidemment, comme on se retrouve, puisque la dernière confrontation s'est soldée par une victoire béninoise, c'était justement en Côte d'Ivoire et le Bénin repartira en Côte d'Ivoire pour quand même recevoir la Libye avant et après son déplacement du côté de Ouyo, du côté du Nigeria. Les Nigériens sont revanchards, comme vous l'avez dit, et ils vont vouloir prendre les 3 points, prendre cette revanche-là à bras des corps, afin de bien démarrer les éliminatoires de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, justement, qui aura lieu du côté du Maroc, vous imaginez. Donc, le Bénin veut retrouver le Maghreb, puisque sa dernière participation remonte il y a de cela, en 2017, si j'ai bonne mémoire, où le Bénin était du côté de l'Égypte pour sa dernière participation. Donc, le Bénin veut retrouver encore le nord de l'Afrique, donc il faudra bien démarrer cette compétition. Et la terre ivoirienne nous a souri la dernière fois, donc... Pour cette première journée, ce sera un déplacement très difficile du côté du Nigeria, du côté de Ouyo, où le Bénin doit faire mieux face à ces mêmes Nigériens, puisque la première manche, c'était à domicile, même si le match a été joué en Côte d'Ivoire. Donc, il faudra être mentalement très fort. Et ce qui peut avantager un tout petit peu le Bénin, c'est bien sûr cette manque de confiance à la tête de cette sélection. Un sélectionneur a été signé, puis dans la foulée, on nous apprend que ce sera Augustine Eguavoen qui va diriger les 2 premières journées de ces éliminatoires. Donc, il n'y a pas trop de sénérité dans la tanière des aigles. Bon, dans la maison des aigles, et c'est, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il faudra profiter et Guerin Dror en est conscient, puisqu'en conférence de presse, il a dit, c'est quelqu'un qui maîtrise bien sûr l'organisation du football nigérien pour avoir passé 4 ans à la tête des Super Eagles, vous imaginez. Donc, il connaît bien comment fonctionne l'organisation au niveau de l'équipe nationale de football du Nigeria et il a dit il va pouvoir, ça ira très très vite, il faut être très fort mentalement et ne pas fléchir tactiquement. Donc ce sera deux journées qui s'annoncent palpitantes et qui s'annoncent très difficiles pour le Bénin. Le Bénin n'a plus joué la Libye il y a très fort longtemps. Notre dernière confrontation remonte à la CAN d'Angola de 2010 où à la veille de cette compétition le Bénin a livré un match amical contre la Libye, gagné à Cotonou 1-0, difficilement même 1-0. Donc la Libye est une équipe très difficile à manœuvrer. On connaît bien sûr cette sélection, même si politiquement ce pays n'est pas encore stable, mais au niveau de sa sélection nationale, il faudra s'attendre à un très grand match. Et tout passe d'abord par le premier défi, c'est bien sûr le Nigeria, où il faudra aller chercher des points là-bas. À défaut d'une victoire, il faut se retourner avec tout au moins un nul, un point, puisque ce groupe s'annonce un peu compliqué, puisqu'on retrouvera encore le Rwanda. Vous imaginez, en moins de 3 ans, le Bénin aura affronté le Nigeria et le Rwanda 3 fois.
Trois fois, et on te retrouvera la semaine prochaine pour rentrer plus en détail sur cette confrontation. Et on en parlera pas seulement une fois, mais peut-être 3 fois. Merci beaucoup, Elisabeth Patine. À la semaine prochaine. Il est 11h14 sur Radio Mars. On va bien évidemment aussi aller du côté de la Côte d'Ivoire avec Elisabeth Goli. Ce sera dans quelques instants. Histoire bien évidemment d'avoir des idées sur la confrontation entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. Une confrontation qui tiendra certainement toutes ses promesses. Et on va aussi se focaliser sur les compétitions des clubs. Bonjour Elisabeth Goli.
Bonjour,
Amine. Bonjour. Alors, tout d'abord, faisons une petite rétro de la semaine dernière avec la qualification au tir au but du Racing d'Abidjan dépend de l'Ittihad de Touargat du Maroc. Le football ivoirien au niveau des clubs se porte plutôt bien puisqu'il y aura également 2 représentants en Champions League.
Oui, effectivement, on peut dire que le football ivoirien, c'est vrai que nous ne sommes pas encore à l'entame de la Ligue 1. Mais on peut dire que les clubs ivoiriens se portent bien parce que la Côte d'Ivoire a fait 3-3 et tous les 3 clubs engagés en compétition de la CAF, la Coupe CAF et la Ligue CAF, toutes les 3 équipes se sont qualifiées et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui démarre vraiment sur un chapeau de roue. Et puis on peut dire, en attendant l'entrée en lice de la SEC Mimosa qui va faire le 4e club, on dira que la Côte d'Ivoire se porte effectivement bien. Et tout cela est boosté, bien sûr, comme le disent les internautes et les observateurs du football, est boosté vraiment par la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN. Et ça revigore tous les athlètes qui aujourd'hui rêvent de se retrouver dans la sélection d'Emes Faye. Donc chacun s'y met, chaque club également s'y met, surtout qu'il y a une très belle cagnotte que la CAF leur a donnée. Donc l'occasion, qu'ils vont recevoir, parce que je pense qu'ils n'ont pas encore reçu, qu'ils vont recevoir. Et donc, c'est une très belle occasion pour eux d'avoir des moyens pour se préparer. Et un club comme San Pedro, le champion de Côte d'Ivoire, qui a vraiment de grands moyens, il en est de... Et donc, cette année, quand même, ça promet, bon, vu de ce que nous avons vu lors de ces premières journées de compétitions de la Confédération africaine de football, ça promet et on espère que ces clubs, ces 4 clubs de la Côte d'Ivoire vont vraiment faire honneur au pays.
Faire honneur au pays, et on verra dans quelle mesure ils pourront se retrouver dans les phases de groupe de ces compétitions continentales. On se projette sur la sélection de Côte d'Ivoire avec un changement dans le staff et surtout une liste en prévision de ce match crucial contre la Zambie. Il faut bien entamer la défense du titre de la meilleure façon qui soit et ce sera à domicile.
Oui, effectivement, un changement, le départ de Gérard Niawa, que tout le monde était vraiment heureux de le voir, mais bon, c'est des contraintes, des choses indépendantes de la volonté du sélectionneur qui a évolué avec lui au sein de cette équipe des éléphants, qui aurait bien aimé continuer avec lui, mais comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais toutefois, on se dit que le nouveau venu, celui qui est là, également compétent. Et puis changement aussi au niveau de la DTN où Alain Gouaméné occupe désormais le poste de DTN par intérim. Donc il y a, on peut dire, 2 changements, 2 bouleversements au niveau de l'encadrement, le départ d'Alain Gouaméné qui devient DTN par intérim et puis le départ également de Gérard Niawa. Mais toute chose qui n'ont pas de conséquences, je peux dire négatives sur le travail d'Emès Faye et de son binôme. Mm-hmm. Donc, on espère que la Côte d'Ivoire fera très belle impression le 7 septembre face à son adversaire.
En tout cas, on souhaite bonne chance à cette équipe de Côte d'Ivoire qui aura comme pilier un certain Sébastien Haller. Surprise de dernière minute dans le mercato puisqu'il il débarque dans le club espagnol de Leganés à titre de prêt et surtout à la recherche de temps de jeu.
Oui, effectivement, il fallait s'y attendre depuis la trêve déjà. Avant même la trêve, cette rumeur de départ de Sébastien Haller était déjà annoncée, tout ça. Bon, donc, c'est vrai que c'est arrivé au moment où l'on ne s'y attendait plus parce que tout le monde se disait, malgré l'arrivée de Serhou Guirassy à Dortmund, cela ne changera plus rien et autres. Bon, ça arrive, c'est une surprise, mais pour le joueur, je ne pense pas que ça soit une parce que lui-même était prêt et c'était selon certaines rumeurs, selon son entourage, voilà, certaines personnes de son entourage, Sébastien était certain qu'il partirait de Dortmund cette saison.
Merci Elisabeth Gouli, on se donne rendez-vous samedi prochain, ce sera l'occasion de faire un premier bilan puisque la Côte d'Ivoire disputera son premier match des éliminatoires de la CAN à domicile le vendredi soir, donc ce sera quasiment de l'info traitée à chaud. À samedi prochain, il est 11h19, on va aller du côté du Cameroun où les embrouilles, les problèmes, le bras de fer entre la fédération et le ministère continuent. Non seulement on se dispute la paternité du staff technique, mais désormais avec David Eyengue, on en saura un peu plus sur le lieu du match, parce que entre Garoua, Yaoundé, Douala, on s'y perd un tout petit peu, et on a l'impression que le Cameroun peut frôler un forfait dans ce premier match éliminatoire contre la Namibie. David Eyengue, bonjour.
Bonjour Amine Marouk, bonjour à tous les auditeurs de Radio Marc, bonjour à tous mes amis de Casablanca et bonjour à toute l'Afrique.
Alors l'Afrique t'écoute, elle voudrait comprendre ce qui se passe parce qu'aux dernières nouvelles, le match Cameroun-Namibie, c'est à Garoua, mais l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs a envoyé un courrier virulent pour plaider la cause de Yaoundé tout en mettant en garde la FECAFOOT. On perd un peu son Camerounais dans ce débat.
On fait du Camerounais. On ne perd pas du Camerounais. On fait du Camerounais. En réalité, vous savez, vous-même, vous êtes au Maroc, mais vous savez déjà qu'il y a une autre structure entre la fédération et la CAF qui s'est infiltrée. Il y avait d'abord le ministère des Sports et maintenant, c'est l'Office national des infrastructures sportives qui s'interpose. Simplement, pourquoi? Parce que en réalité, depuis la prise du pouvoir par Samuel Eto'o à la Fédération Camerounaise de football, alors il y a beaucoup de problèmes et on se pose la question de savoir effectivement si, d'ailleurs, ce match Cameroun-Namibie va se jouer. Ce n'est pas moi, David Eyengue, qui pourrait vous dire exactement maintenant, nous sommes le 31 août, si ce match va se jouer le 7 et dans quel stade. Parce que la Fédération Camerounaise de football a d'abord désigné la ville de Douala et l'ONIES est venu dire que le stade de Japoma n'est pas prêt pour accueillir la compétition et elle a conseillé d'avoir le stade Amadou Ahidjo. Eh bien, le stade Amadou Ahidjo, la fédération ne veut pas de ce stade-là, vous savez bien pourquoi? Parce que c'est ce stade-là, quand le match est organisé à Yaoundé, c'est ce stade-là où le Cameroun avait joué ses premiers matchs pour la Coupe du Monde, pour rappeler le match Cameroun-Cap-Vert. Et donc, le ministère avait introduit un deuxième staff qui était allé occuper l'hôtel avant. Eh bien, la fédération a décidé de ne plus tomber dans ce piège-là. Elle a donc refusé la ville de Yaoundé et elle a choisi la ville de Douala. Et l'ONES a dit que la ville de Douala ne peut pas accueillir, et son stade de Japoma ne peut pas accueillir les Lions Indomptables de ce match. Et donc, un conseil, le stade Amadou Ahidjo, qui a été construit en 1971. Et la fédération a aussi refusé en choisissant le stade de Garoua, qui est homologué par la CAF. Eh bien, l'ONES a encore fait une sortie pour dire que le stade de Garoua n'est pas disponible. Le ministre tient bien ce bras de fer là et voudrait. D'ailleurs, il y a un autre épisode qui s'est passé hier, je crois que vous êtes déjà au courant. Il y avait la conférence de presse de Marc Brice qui était annoncée à la fédération à 10h30, il ne s'est pas, il s'est présenté avant et a protesté qu'il avait un malaise, il est parti. Et quand on a annulé la conférence de presse, il est revenu pour dire qu'il avait besoin de 2 minutes seulement pour parler à la presse. Eh bien, la conférence de presse n'a pas eu lieu. Et pourtant, à la fin, on a quand même eu la liste de 24 joueurs qui vont participer à ce match-là. Et on se demande toujours si ce match va se jouer. Le problème est totalement camerounais. C'est tout sauf le football. Malheureusement, c'est le film macabre que le Cameroun présente au monde entier.
Alors, ma toute dernière question, David, est-ce que c'est le personnage Samuel Eto'o qui dérange? Est-ce que ce n'est pas une cabale? Est-ce que les torts ne sont pas partagés? Mais, car la personnalité de Samuel Eto'o est tout sauf pas clivante.
Oui, bien sûr, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est le personnage et la personnalité de Samuel Eto'o qui dérange parce que depuis toujours, il est, je pense, le 21e président de la Fédération Camerounaise de football. Depuis toujours, il y a eu une connivence, une complicité entre les présidents de la Fédération et les ministres des Sports qui se sont succédés dans les deux structures et on n'a jamais entendu parler de ces problèmes. Eh bien, qu'est-ce qu'on discute? On discute l'argent, on discute le contrôle des finances. C'est le résumé qu'on peut faire de cette affaire parce que, effectivement, vous savez, nous sommes encore dans une structure, dans une configuration où c'est l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports qui gère financièrement les équipes nationales. Et donc, l'argent vient du ministère des Sports et est géré par le président de la fédération. Et aucun ministre des Sports n'a jamais voulu que ce soit ça. Il veut que l'argent passe par lui et qu'il soit ordonnateur des dépenses. Et Samuel Eto'o est un des présidents, d'ailleurs, le rat, à avoir dit non à cette pratique. Eh bien, ça, c'est pour ça que le bras de fer continue de durer. Mais lui aussi, Samuel Eto'o, on pense qu'à un certain moment, il pouvait baisser un peu la garde, laisser faire les choses pour que le Cameroun ne souffre pas de ce. Mais il tient, Dieu comme fer, que cela va se passer comme il veut, comme les textes de la Fédération et ceux de la CAF le précisent. Parce qu'il a été pendant 20 ans à l'équipe nationale A. Il sait bien comment ça s'est passé. Le Cameroun a raté, par exemple, la Coupe du Monde 2002 où on était parmi les favoris, simplement parce qu'on n'avait pas voyagé à temps. On était arrivé au Japon, Corée-Japon. On était arrivé à la veille du match alors qu'on avait l'équipe la mieux préparée du monde. Et malheureusement, c'est dans cette atmosphère-là que les anciens Lyons ont décidé de prendre la Fédération Camerounaise de football et ont donc accompagné Samuel Eto'o. Malheureusement pour eux, ils trouvent, n'est-ce pas, les responsables du ministère qui ne veulent pas laisser passer, qui ne veulent pas abandonner leur pratique ancienne, celle de gérer l'argent qui vient de l'État.
Merci beaucoup David Eyengue pour toutes ces explications. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura un double travail puisqu'il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la CAN 2025, pardon, et la Coupe du Monde U20 féminine puisque le Cameroun démarrera la compétition ce soir contre le Mexique. Après une page de pub, on reste au Cameroun, mais cette fois-ci, on détaillera un peu plus la liste de Marc Brice avec notre ami William Tchango. Ce sera tout juste après cette insertion publicitaire.
علاش دابا الوقود وين بروتيكت بلس ديال وينكسو هو احسن ما كاين في السوق باختصار مع الوقود وين بروتيكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي واكثر فعاليه كيستهلك قل وكيدوم اكثر وهذا الشيء كله بنفس ثمن الوقود العادي داكشي علاش الوقود وين بروتيكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس وداكشي وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل وينكسو شركة مغربية بالجودة والرخاء تهلا فيك وفيا
مباراة الجولة الأولى منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الأول مباشرة على راديو مارس فريق نادي المكناسي العائد للقسم الأول غادي يستقبل أولى مبارياته هذا الموسم فريق نهضة الزمامرة نهار السبت مع 7 ديال العشية
هذا الماتش مباشرة على راديو مارس
Allez, nouvelle escale au Cameroun, mais via les États-Unis où réside notre ami William Tchango depuis quelques mois. Bonjour William, bonjour à tout le monde. On va bien évidemment parler un peu plus, un peu davantage de la liste de Marc Brice qui a mis du temps à être cuisinée. Bonjour William, quelles sont les grandes nouveautés, quelles sont les certitudes du sélectionneur qui est en conflit ouvert avec Samuel Eto'o?
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Il faut dire que la liste des Lions indomptables pour le prochain regroupement est enfin disponible depuis hier vendredi. Et elle n'a pas été dévoilée au cours d'une conférence de presse comme annoncé par la Fédération Camerounaise de football, mais elle a été ventilée sur les différentes plateformes de l'instance fêtière du football camerounais, de même que des Lions indomptables. Mais ce qu'on retient, bien sûr, c'est que le sélectionneur Marc Brice est resté fidèle à ses choix. C'est pratiquement la même ossature du premier stage qui a été reconduite pour ce nouveau regroupement. Les cadres habituels sont là. André Onana est bien présent dans les buts. Vincent Aboubakar est bien présent en attaque, tout comme Brian Mbeumo qui est là, et André France Zambou Anguissa au milieu de terrain. Donc il y a aussi bien sûr le nouveau chouchou du milieu de terrain des Lions indomptables, Carlos Baleba, qui est bien et bien présent et qui connaît un début de saison plutôt tonitruant avec l'équipe de Brighton en Angleterre en Premier League. Et donc il y a aussi des absents, notamment Maxime Choupo-Moting qui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas été convoqué. On sait qu'il n'avait pas été titularisé par Marc Brice lors du premier stage en vue des matchs contre le Cap-Vert à Yaoundé et contre l'Angola à Luanda. Peut-être que le courant ne passe pas véritablement entre l'attaquant du Bayern de Munich et le technicien belge. On pourrait aussi s'attendre à une convocation de Fabrice Ondoa, qui venait de qualifier son équipe, le Rigas FC, son club letton, pour la phase de poule de l'Europa League. Il n'a pas été sélectionné par le technicien belge à sa place. Il a préféré faire confiance à Simon Omosola, qui joue à Saint-Éloi-Lopopo en RDC, et bien sûr Simon Ngapandouenbou pour accompagner André Onana dans les buts. Donc, voilà ce qu'on peut dire brièvement sur cette liste de Marc Brice qui est enfin disponible. Donc on peut pousser un ouf de soulagement parce que cette liste était très attendue et n'avait toujours pas été dévoilée à cause des guéguerres qui persistent entre la Fédération Camerounaise de football et le technicien belge.
Une guéguerre qui ne fait guère de bien au football camerounais, à l'image de la sélection camerounaise de football. Merci William Tchango pour toutes ces explications. On va en Guinée retrouver notre ami Chérif Aliou. Bonjour Chérif.
Bonjour Amine, bonjour à tous.
Alors, on prépare la liste pour le match de la RDC où on retrouvera forcément quelques piliers de la sélection, Mbani de Diawara et puis les incontournables Guirassy, mais ce sera sans Naby Keita.
Absolument, Amine. Le sélectionneur du Sud de Guinée, Charlie Pakilé, a donc publié la liste pour les deux prochains matchs de la Guinée contre la RDC et contre la Tanzanie. Vous l'avez dit, avec quand même deux grandes absences, notamment celle de Naby Keita, qui n'a pas été convoqué pour ces deux rendez-vous. On va dire quoi, c'est une grosse surprise tout de même de voir le capitaine du Sili ne pas figurer sur cette liste de Charlie Pakilé. Il y a aussi l'absence d'Amadou Diawara, qui lui aussi était très fréquent avec le Sili de Guinée ces derniers temps, mais lui aussi ne sera pas du rendez-vous. C'est donc les deux grosses absences sur cette liste du Sili de Guinée pour le deuxième prochain match du Sili, le 6 contre la RDC en déplacement au Congo, et puis le 10 contre la Tanzanie du côté de Yamoussoukro, c'est bien sûr en Côte d'Ivoire. Par contre, il y a le retour de Madi Camara après 3 ans d'absence, et oui, le Bani est de retour dans l'effectif du Sili de Guinée. Il a longtemps été réclamé par les fans du Sili, ben il est bel et bien présent pour donc répondre à la convocation du sélectionneur. Il y a aussi le retour de Mohamed Ali Camara, le défenseur des Young Boys de Berne, capitaine des Young Boys, qui lui aussi fait son retour avec le Sili de Guinée. Pour le reste, on le sait, hein, Chirou Guirassy, Mohamed Bayo, Aguibou Camara, Mourla Issila, ben, seront tous là pour ce grand rendez-vous, hein, de la Guinée, pour ce mois de septembre.
La Guinée qui va déroger à ses habitudes. Elle avait pour tendance de délocaliser ses matchs à domicile au Maroc. Visiblement, cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour des raisons logistiques? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement, entre guillemets?
Ben écoutez, il faut dire que le fait que le Sili joue l'OL Zeba a souvent été très critiqué parce que les supporters sont sévrés de leur équipe nationale qui joue donc très loin donc de sa base, notamment au Maroc, alors que ici en Guinée, il y a une forte voilà ferveur hein, autour de l'équipe nationale, ce qui manquait cruellement voilà à cette équipe du Sili. Et donc le nouveau ministre des Sports a donc voulu changer la donne en délocalisant les matchs du Sili du côté de la Côte d'Ivoire, qui est donc un pays voisin, parce qu'on sait que lors de la dernière CAN, il y a eu une forte colonie guinéenne qui s'est déportée en Côte d'Ivoire pour aller soutenir le Sili de Guinée. D'ailleurs, la Guinée était la seconde équipe supportée après celle de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait donc revoir les choses, essayer de ramener les matchs de la Guinée en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait plus de monde pour aller pousser le tricolore guinéen. C'est donc chose faite désormais, le Sili jouera ses prochains matchs sur le sol ivoirien, qui est bien sûr un pays frère.
La Côte d'Ivoire qui est un pays ami et frère également du Maroc. On va parler des compétitions des clubs avec la qualification surprise de Milo pour le deuxième tour du tour préliminaire de la Champions League. Ça
oui,
augure de bien
oui.
Belles choses.
Hein. Amid, c'est une sensation créée par le Milo FC de Cancan, champion des Guinées en titre, qui a réussi donc à passer le premier tour en écartant le FC Nouadhibou de la Mauritanie. Match aller 0-0 au Mali, bien évidemment, puisque la Guinée n'a pas de stade homologué, donc l'équipe du Milo a reçu du côté du Mali. Au match retour, ben il y a eu un score de parité, un but partout, suffisant pour donc qualifier l'équipe du Milo FC de Cancan pour le prochain tour, et ça sera face au Stade d'Abidjan, club ivoirien, bien évidemment. On espère que le Milo réussira à passer ce cap-là et se hisser en phase de poule pour le plus grand bonheur du football guinéen. Parce que vous savez hein, que l'indice, on l'appelle deux places au niveau de l'indice CAF. Désormais, au lieu de quatre clubs, la Guinée n'a désormais que deux clubs. Le second club, c'est le Afia qui a été éliminé par l'étoile filante du Burkina Faso. Voilà, donc il ne reste plus que le Milo hein, qui donc est le grand espoir du football guinéen désormais. Parlant du Afia, il faut dire que dans la foulée hein, le coach du Afia a été remercié hein, Casimir Jagiolo, le technicien polonais a donc été remercié par les Verts et Blancs pour contre performance, même si on a, dans le communiqué qu'on a lu hein, il a dit que c'est parce qu'il n'a pas le diplôme requis, c'est-à-dire la licence CAF. Mais non, au fond c'est parce qu'il n'a pas atteint l'objectif, hein, c'est-à-dire que qualifier le AFIA dans la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, tout simplement.
Je te remercie infiniment, mon cher Chérif Alio. C'était clair, précis, concis et efficace. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de football guinéen, justement de ces éliminatoires de la CAN délocalisée pour le Sili National qui devra sortir le grand jeu. Ce seront les premiers matchs sans l'entraîneur ou le sélectionneur Kaba Diawara. Et en parlant de sélectionneur, le Mali a une nouvelle tête et justement il s'appelle Tom Saint-Flit et nous allons nous renseigner du processus qui a permis de choisir l'ex-sélectionneur de la Gambie avec notre ami Drissa Nyono depuis Bamako. Bonjour Drissa.
Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce sera notre l'ex-sélectionneur de la Gambie, Tom Saint-Flit, qui a réussi à s'extirper de cette shortlist. Quels sont les critères qui ont permis de désigner ce sélectionneur?
Alors, donc d'après la Fédération malienne de football, il y a eu quatre grands critères qui ont déterminé ce choix. Il s'agit d'abord d'avoir un sélectionneur qui a de l'expérience, surtout du football africain. En deuxième critère, il faut que celui-ci également accepte de résider ici également à Bamako. Et en plus de ça, il fallait trouver également quelqu'un qui a la licence Pro A, CAF ou Pro UEFA. Donc, en plus de ça, donc, il fallait qu'il accepte de travailler également sur place avec les sélectionneurs locaux. Donc voilà un peu les critères qui ont pesé et qui ont par la suite pesé en fonction du coach belge. Mais au-delà de ça, moi, c'est mon homme, là, Abi. Je pense que parmi les six également, il était celui qui était également le moins cher.
Le moins cher et peut-être le plus efficace. Il devra d'ailleurs composer avec une liste qui a été certainement préétablie plusieurs jours avant sa désignation, avant la confrontation contre le Mozambique. Justement, avec des joueurs qui étaient solidaires de leur capitaine d'équipe, est-ce qu'il y a eu des pourparlers? Comment la fédération malienne va gérer ce problème après avoir résolu celui du sélectionneur?
Alors, celui du sélectionneur, c'est que il rentrera pas directement en fonction parce que les deux matchs, à savoir les deux matchs qui arrivent, hein, seront préparés et joués par Alou Badra Diallo Conti, qui est le sélectionneur intérimaire depuis Eric Sékou Chelle. Donc, c'est Conti dans pratiquement 20 minutes qui va annoncer tout à l'heure au sein de la Fédération malienne de football la liste des joueurs retenus pour cette double confrontation. Et bien évidemment, il y avait ce conflit qui existait entre le comité exécutif et ses joueurs qui ont été également solidaires de leur capitaine. Ces deux dernières semaines, il y a eu des visioconférences entre les différents parties, des vidéos qui ont permis également d'aplanir des positions. Et aujourd'hui, et selon les informations que nous avons reçues, tout est rentré dans l'ordre depuis 72 heures maintenant, et que le choix revient maintenant au sélectionneur Alou Badra Diallo Conti qui va choisir les joueurs, et les joueurs parmi ceux qui étaient solidaires de leur capitaine, qui vont être sélectionnés, vont en principe, hein, il faut prendre serait en principe disponible pour ces deux matchs-là. En tout cas, il y a d'autres informations qui circulent selon lesquelles il y a certains également Binasunon qui estiment que si la situation au niveau de la gouvernance ne change pas, ce serait difficile également de le voir en équipe nationale.
On va parler des compétitions des clubs. Le FC Djoliba en Champions League connaît son adversaire pour le deuxième tour préliminaire qui mènera vers la phase de groupe, c'est l'ASK Ankara. C'est une opportunité plus unique que rare de se retrouver enfin dans la phase de groupe de la Champions League.
Tout à fait. Alors, les Rouges qui sont à 180 minutes, hein, entre guillemets, plus les tirs au but, s'il y en a, de franchir cette étape des éliminatoires pour entrer en phase de poule de la Ligue des Champions. C'est qu'aucun club malien n'est parvenu à faire depuis la nouvelle version en 1996-97. Alors, ce sera face à l'ASK Ankara, les champions du Togo, que le Djoliba connaît, puisque en 2016, il s'était affronté, hein, même si c'était en Coupe de la Confédération. Et le Djoliba avait largement gagné cette double confrontation. Alors, c'est sur ça que se basent beaucoup de supporters rouges pour dire que cette fois-ci, ils pourront à leur côté écrire cette histoire, à savoir être la première formation de club malien, donc de rentrer en phase des poules de la Ligue des Champions. En tout cas, ils se préparent et hier, ils étaient en match amical face à une formation de deuxième division, ce qu'ils vont d'ailleurs remporter. Ensuite, du côté des Blancs du Stade Malien de Bamako, qui n'ont pas joué en tour préliminaire parce qu'ils étaient exemptés, ils vont affronter les Libériens du PNC Ville qui ont été vainqueurs de Fofou de Baham du Cameroun, un match aller comme au match retour. En tout cas, le Stade malien était opposé ce matin même au Stade Mamadou Konaté à l'équipe nationale U20 du Mali qui se prépare pour le tournoi IFOA qualificatif pour la CAN U20. Alors, ce sont les protégés de Soumaïla Koulibaly qui se sont imposés sur un score de 1-0. En tout cas, une deuxième défaite pour le Stade malien de Bamako face à cette même formation, même si 48 heures plus tôt, le stade avait gagné, et cette fois-ci dans une compétition de Super Coupe organisée par la Ligue de Bamako entre les clubs de première division en vue du championnat. Donc le stade avait gagné ce match à 2-1 face à l'ASK. En tout cas, les Blancs, pour l'instant, leurs performances sont insuffisantes. Espérons d'ailleurs, c'est ce que le coach Oumour l'a dit, que ça lui permettra de corriger ses insuffisances avant septembre et ce déplacement du côté du Libéria au stade Samuel Keyondéon pour affronter Pinceville.
Merci infiniment, Michel Taubeau. On se retrouve la semaine Drissa Niono. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour continuer à parler de toute l'actualité qui concerne le Mali, notamment de ce match entre le Mali et le Mozambique, comptant pour les éliminatoires de la CAN qui aura lieu à Bamako, capitale du Mali. Merci Drissa pour toutes ces explications. À samedi prochain. 11h43, on va aller du côté de Tunis retrouver notre ami, frère et confrère Ahmed Adala pour parler évidemment de cette liste de la sélection des Aigles de Carthage, première liste de l'ère Fawzi El Benzarti III. Ahmed Adala, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Alors une liste avec trois nouveaux, quelle est la tendance? Quelle est la vision de Fawzi Benzarti pour mener à bien cette mission?
Bon, ce qu'on avait compris selon la conférence de presse qui a été organisée pour annoncer la liste, on avait compris que Fawzi Benzarti, ça sera un head coach qui donne la stratégie, qui ne sera pas vraiment impliqué dans toutes les séances d'entraînement, c'est-à-dire c'est à la gare Southgate comme en Angleterre, il a des coachs, il a tout un staff d'ailleurs. C'est une première, je pense, chez nous en Tunisie, une conférence de presse organisée avec tous les membres de staff, de l'adjoint jusqu'au entraîneur de gardien. Chacun parlait de son compartiment, le volet statistique. Il a expliqué que le choix a été fait en se basant sur plusieurs critères, dont les stats, les minutes jouées, les sprints, les tirs, les dribbles, les taux de passes réussies, etc. Et le volet physique, bien évidemment, tout en sachant que le problème et que certains joueurs ne jouent pas avec leur club. Le championnat tunisien démarre aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment une très grande marge de choix pour les joueurs locaux. Et certains joueurs à l'étranger, soit ils étaient en train de changer de club, soit ils ont des problèmes avec leur club actuel, ils ne jouent pas. C'est un problème, je pense que c'est un problème classique. Après, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas vraiment parlé des objectifs. On a juste, on a évoqué certains noms qui sont absents et on a évoqué la présence de certains autres joueurs comme Saifuddin Jaziri, l'attaquant du Zamalek, qui a un problème, qui joue pas. On nous explique que voilà, il a disputé son dernier match le 8 août, il est prêt. Par contre, son coéquipier Hamza Al-Matlouti, lui aussi, il a disputé le dernier match le 8 août, mais il n'est pas présent dans la liste. Par contre, pour résumer, les questions étaient par rapport à ce quatrième mandat. On sait tous que Fawzi Benzarti a connu trois passage à l'équipe nationale, à la tête de l'équipe nationale. Ils étaient tous fast, très rapides. En 94, il est venu pour sauver la Tunisie qui organisait le mariage, la CAN chez elle. On a été éliminé après un match nul. 2010, un court passage pour la CAN 2010, trois nuls, il s'en va. 2018, on connaît tous l'histoire, le problème avec Wadi Al-Jari, certains joueurs. Et là, est-ce que ça serait un challenge pour lui? Et est-ce que ça serait la dernière danse pour lui? Bon, la réponse, elle était diplomatique. Moi, je représente la Tunisie, j'aime mon pays, je refuse jamais d'être l'entraîneur. Il n'a pas précisé si ça serait la dernière occasion pour lui ou non, la dernière expérience pour lui. Non, évidemment, il y avait des questions par rapport à Mehdi Nafti qui est parti avant même de commencer à cause d'un un caractère qui n'est pas compatible avec celui de Fawzi Benzarti.
Fawzi Benzarti qui n'est guère facile dans sa gestion. Alors justement, trois nouveaux dans cette liste, bien évidemment, on va les découvrir. Et un match qui ne sera pas de tout repos face à Madagascar. Quel visage escompte-t-on? Quel visage va proposer Fawzi El Benzarti? Est-ce qu'il va rester fidèle à son credo avec une équipe qui presse, une équipe qui va chercher très haut l'adversaire, ou bien il va s'adapter aux qualités de ses joueurs avec ses trois nouveaux, Houssem Ben Ali de l'Étoile Sportive du Sahel, qui découvre la sélection à 28 ans, le jeune arrière-gauche Raed Bouchniba, 21 ans, champion avec l'Espérance de Tunis, et l'avant-centre Bilal Mejri du Stade tunisien, lui aussi tout nouveau, à 28 ans, tout nouvel international.
Effectivement, avant d'expliquer comment ça va être son style de jeu, même si je peux vous répondre tout de suite, la question lui a été posée. Il a dit que voilà, on m'a toujours dit que je suis l'homme de la pression, du pressing, mais là je vais jouer offensivement avec les mêmes qualités de jeu et selon l'adversaire. On n'a pas vraiment parlé beaucoup du match. C'est vrai qu'il s'agit d'un adversaire comme le Madagascar, mais il a expliqué qu'il faut respecter tous les adversaires. C'est classique, Amine, c'est toujours la même réponse, peu importe la personne à qui tu poses la question. Pour les trois joueurs, Houssem Ben Ali, il est là parce que Ali Abdi, il a un problème avec son club. Quand il était à deux points de partir à Nice hier, il s'est fâché contre son club, il voulait ce bon de sortie, deux défaites pour les deux premiers matchs de la Ligue 2, il est courtisé, il a des offres et il n'était pas vraiment très concentré sur l'équipe nationale ou le jeu. Mais il n'a pas dit non à la sélection, contrairement par exemple à Elias Lahachouri, le joueur de FC Copenhague, qui vient de renouveler son contrat jusqu'au 2028 et qui a refusé la sélection. C'est toujours la même question pour certains joueurs. Pour Raed Bouchniba, comme tu viens de l'expliquer, le champion de la Tunisie et buteur de la demi-finale contre Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, il est en courbe ascendante, il a 21 ans. N'oublions pas qu'il n'est pas un arrière-droit de métier, mais c'est un axial qui a été converti en arrière-droit par Radhi Jaidi et Nabil Mahloul. Pour le troisième joueur, Bilal Mejri, là aussi, il vient pour pallier à l'absence de Omar Lahyouni, l'attaquant de Haken, le club suédois. Et il n'y avait pas vraiment un grand choix. Donc, ils ont été obligés, entre autres, de convoquer Bilal Mejri, qui a sorti un très bon match avec son club, le Stade tunisien, face à Djamous en Coupe de la Confédération.
Merci infiniment, Ahmed Adala, pour toutes ces explications. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ce match qui aura lieu jeudi prochain à Rades contre Madagascar. Ce sera la première officielle de Fawzi Benzarti à la tête de la sélection de son pays. Quatrième épisode de Fawzi Benzarti. 11h49 minutes, cette fois-ci, c'est à Ouagadougou, Burkina Faso, pays des hommes intègres, que nous allons partir avec notre ami Jean-Modeste Ouedraogo. Bonjour.
Bonjour Amis, bonjour à tous les auditeurs des Radio Mars.
Alors, on va bien évidemment bien se focaliser sur la liste des étalons du Burkina qui affronte le Sénégal. C'est un véritable duel au sommet. Ce n'est pas encore une rivalité en Afrique de l'Ouest, mais c'est un plafond par lequel commencent les éliminatoires ou l'aventure de la CAN 2025, les étalons, avec un nouveau joueur qui a été tout bonnement chippé au voisin ivoirien.
Ah ben oui, bien sûr, puisque ce match entre le Sénégal et le Burkina Faso est un duel vraiment au sommet, puisque le Burkina n'a pas droit à l'erreur. Le Sénégal qui a bien envie de bien entamer aussi les éliminatoires, et pour affronter ce géant africain donc du football, il a fallu que Brahma Traoré puisse aller chercher toutes les compétences qui pourraient exister et lui permettre de pouvoir faire un bon résultat du côté du Sénégal. C'est pourquoi il a fait appel à un garçon comme Yabré, qui est un latéral gauche ivoirien, burkinabé ivoirien, qui évolue du côté de la SEC d'Abidjan, et il pourra donc faire beaucoup de bien à l'équipe de Burkina qui véritablement a un problème à ce poste de latéral gauche. Et donc il est allé fouiller, il a trouvé ce garçon-là qui va venir pallier un peu donc à ce poste-là. Et puis il faut dire que la liste de Brahma Traoré comporte quand même quelques petits problèmes qui ont suscité des gorges chaudes du côté de Burkina. Il s'agit de l'absence du capitaine Bertrand Traoré qui évolue à l'Ajax Amsterdam. Ça fait quand même plusieurs rendez-vous manqués pour Bertrand Traoré, qui visiblement doit avoir des problèmes avec le nouveau sélectionneur Brahma Traoré. Et donc pour ce match, le Burkina qui va commencer le regroupement dès ce dimanche du côté de Bamako jusqu'au 4 septembre. Et puis, à partir du 4 septembre, ils vont rejoindre Dakar et jouer le match le 6 à Dakar. Et puis, après, ils vont revenir à Bamako et recevoir le 10, le Malawi. Et donc, c'est deux matchs très importants pour le Burkina.
Deux matchs très importants pour le Burkina qui a aussi peut compter sur un nouveau joueur qui est d'origine malienne ou dont les parents sont maliens et qui a fait partie des catégories de jeunes du Burkina. Ça veut dire qu'on est, on cherche à parler à venir du côté des étalons avec le nouveau sélectionneur.
Non, oui.
On rajeunit, oui, et on pense aussi à moyen et à long terme.
Clairement, parce que le Burkina est en reconstruction, on va dire. Sinon, c'est vrai qu'il y a longtemps, quand on parle de reconstruction, il y a longtemps, ce terme est vraiment d'actualité au Burkina. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que Ousmane Camara, qui a été formé du côté de Haïmo FC à Bourgui Lasso, est un Malien d'origine, effectivement, qui a évolué dans toutes les catégories de Burkina. Donc, Brahma Traoré est en train de chercher à faire venir toutes les compétences, je l'ai déjà dit, pour pouvoir former une équipe d'avenir. Et quand vous regardez dans cet effectif de Brahma Traoré, il y a beaucoup de jeunes, à l'image donc de Abdelkader Ouattara, qui évolue également du côté du Cercle de Bruges en Belgique. Il y a beaucoup de jeunes et on a comme l'impression que en même temps qu'il veut les résultats tout de suite et maintenant, parce que la CAN 2025 au Maroc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas qualifié. Et au Burkina, on ne s'imagine même pas le Burkina. Enfin, cette canne-là sans le Burkina. Et donc, il a une un double objectif, c'est-à-dire que qualifier le Burkina pour la CAN et en même temps rajeunir cette équipe-là. Et ce qui n'est pas très, très évident, mais au Burkina, je peux vous assurer, tout le monde est d'accord qu'il faut apporter du sang neuf, il faut faire en sorte que cette équipe-là ait vraiment des joueurs de qualité pour penser à venir.
Merci pour toutes ces explications, Jean-Modeste Ouédraogo. Une salutation les plus sincères à nos amis du Burkina. On se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut. Et on finit par atterrir en République démocratique du Congo pour notre dernière escale avec Michel Tobo. On parlera de la liste du sélectionneur de la RDC pour le match éliminatoire contre la Guinée. Ce sera un des chocs de cette première journée. Et visiblement, bonjour Michel, ce sera avec un certain Chancel Mbemba qui est un peu le banni de l'Olympique de Marseille. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci infiniment de me donner justement encore une fois de plus ce petit moment pour réagir par rapport à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On va commencer bien évidemment par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec la liste de 25 joueurs publiée par le sélectionneur national, le français Sébastien De Sabre, justement pour les deux premières journées de ces éliminatoires qui vont se disputer donc dans quelques jours. Voilà, une liste véritablement sans surprise. Hein, voilà, et Sébastien De Sabre nous a habitués depuis quelques temps à avoir, on va dire, une liste assez homogène, hein, avec la majorité des cadres qui sont là, voilà, ceux-là qui ont disputé la dernière Coupe d'Afrique de Nations en Côte d'Ivoire. Mais il y a deux jeunes nouveaux, on va les dire comme ça, qui viennent justement d'intégrer la sélection. Il s'agit de Ngalayel Moukaou, qui est arrivé cette saison du côté de Lille en France, en provenance de Malines en Belgique. C'est un espoir congolais. Il jouait il y a quelques temps seulement avec les moins de 20 ans, et donc là c'est une consécration pour lui. Donc il va jouer avec les A pour la première fois. Il y a également Nathaël Mboukou, là c'est vraiment une surprise, on s'y attendait le moins. Nathaël Mboukou évolue du côté d'Augsbourg, hein, mais il a été formé à Reims, et puis il a fait également un tour du côté de Saint-Étienne. Pour lui en tout cas, aussi attendez les moins, il a 43 sélections, s'il vous plaît, 43 sélections avec les équipes des jeunes, voilà, de la France. Mais bon, il n'a pas été encore appelé avec les A, et heureusement pour nous, Sébastien De Sabre l'a convaincu pour venir justement évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. On est content, bien évidemment. Voilà, ce sont les deux jeunes nouveaux, hein, qui intègrent cette liste, ou la tanière pour justement ces deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Mais il y aura pas tellement de surprises, hein, voilà. Sébastien De Sabre reste homogène dans sa philosophie, mais il faudra bien évidemment bien commencer ces éliminatoires ici face à la Guinée, hein, donc à Kinshasa, justement pour aller terminer du côté de Dar es Salaam, où les Léopards vont jouer contre le Wallis de l'Éthiopie. Voilà, ce sont deux matchs assez abordables pour les Congolais, mais il faudra garder les pieds sur terre, hein, et faire très attention à ce que les deux rencontres ne se transforment pas à des matchs pièges. Donc voilà, il faudra jouer ces matchs avec beaucoup de sérieux possible pour justement commencer déjà à tracer justement une ligne pour la qualification pour cette Coupe d'Afrique. Et donc les Léopards ont été quatrième lors de la dernière CAN, et voilà, ce serait très mal en tout cas qui ne participe pas à la prochaine édition au Maroc. On croise les doigts, mais ça commencera bien évidemment par des très bons résultats, bien évidemment. On suivra bien évidemment les deux rencontres de Léopards de la plus démocratique du Congo, et puis évidemment on vous fera le compte rendu, bien évidemment, après que les deux rencontres se soient jouées. Et on va parler également, hein, donc de compétitions africaines interclub, avec les quatre clubs congolais maintenant qui connaissent leurs adversaires pour le deuxième tour. Hein. Voilà, Maniema Union qui s'est qualifié sur le terrain, et 20 clubs, et puis Mazembe, bien évidemment, avant connaissent tous leurs adversaires, en tout cas pour ces compétitions africaines interclub. Le championnat congolais n'a pas encore repris pour le moment, donc ils sont en train de se contenter de rencontres de rencontres amicales, ce qui n'est pas très bien vraiment. Et bien, la Fédération congolaise de football association a organisé ou organise durant les prochaines les prochains jours plutôt un tournoi avec quelques clubs congolais, mais il y a quelques clubs qui participent justement aux compétitions africaines interclubs qui ne veulent pas participer à ces tournois, notamment 20 clubs et Maniema Union. Je comprends pas, seul Lupopo, voilà, du côté de Lubumbashi, a accepté justement de participer à ce tournoi. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que les clubs, ces clubs qui jouent la Coupe d'Afrique, qui ont besoin de des compétitions dans les jambes, hein, justement, ne veulent pas justement participer à ce tournoi. On aura de plus en plus d'explications lors des prochains jours. Mais c'est bien sûr, ce tournoi s'organise durant les deux prochaines semaines, en attendant que les clubs congolais puissent entrer en compétition. Hein. Donc, 20 clubs, Lupopo,